série Les Camps radiophoniques, Radio Canu vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Inflexible Destin. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Il l'embrasse une dernière fois. Je dois partir. Il est 8 heures. Il sort du lit. Elle se lève aussi. Pourquoi tu te lèves? Je vais te préparer ton café. Il quitte sa veste de pyjama. Elle me remet une robe de chambre marron. Elle lui dit: tu pars pour combien de temps? Je ne sais pas, une semaine peut-être. Après avoir pris leur café, ils partent. Il a mis son costume gris clair, chemise blanche et cravate rouge. Il est grand, mince, brun, son visage est un peu osseux, ses yeux sont d'un bleu très pâle. Gisèle se soulève sur la pointe des pieds pour l'embrasser. La porte se referme. Il descend les escaliers. Prend sa voiture et part. Elle est chouette, Gisèle. C'est une brave fille. Je vais chez elle, je passe le week-end, on baise, ensuite je pars. Elle ne demande rien de plus. Continue de rouler durant 2 heures et décide de s'arrêter pour boire un café. Il voit sur la route un relais routier. Il fait du vent, c'est la plaine. Il arrête sa voiture et rentre au bar. L'intérieur est lugubre et sombre. Il demande un café et va s'asseoir à une table. table en face de lui se trouve un petit homme au visage tout ridé et grimaçant. Il porte un chapeau, un manteau noir et une grande écharpe autour du cou rouge. Le petit homme semble faire une réussite ou tirer les cartes. Ses mouvements sont féminins. D'ailleurs, tout en lui ressort le côté féminin. Le petit homme, tout à coup, voit Émile. Il s'arrête de toucher les cartes et l'observe. Émile n'aime pas qu'on le regarde. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Le petit vieux ramasse ses cartes et va à la table d'Émile.
Excusez-moi, mais je n'ai jamais vu des yeux comme les vôtres. Allez-vous-en, j'aime pas les pédés.
Je ne suis pas pédé, j'aimerais vous tirer des cartes. Je n'ai jamais vu les yeux comme les vôtres.
Émile, amusé, lui fait signe de s'asseoir. Le vieux s'assoit et commence à lui tirer les cartes.
Je n'y comprends rien. Tout est embrouillé. Je n'arrive pas à savoir qui est qui. Comme c'est étrange. Votre oblige semble changer l'ordre des choses. Tout ceci n'est pas bon. C'est tabou.
Émile semble troublé.
C'est étrange. N'allez pas au village où vous devez aller. Non, ce village est interdit pour vous. Vous allez tuer l'être qui est le plus proche et vous unir avec la personne qui vous a porté. Je vois la mort. Non, partez loin, très très loin d'ici. Éloignez-vous de ce village. Allez où vous voulez, mais ne restez pas là. Allez-vous-en vite.
Après avoir bu son café, Émile se lève. Le vieux le regarde.
Vos yeux sont déjà morts. Vous voyez plus la réalité en face. C'est pour cela que vous allez faire la faute la plus tragique qui soit.
Émile sourit. Il met 2 pièces de 10 francs sur la table et 1 billet de 50 sur les cartes et il sort. Le temps est lourd et chaud. Il prend sa voiture et part. Je n'ai jamais vu un type pareil. Je suis sûr qu'il y croit à ces histoires. Continue à rouler, il se dirige en direction du Meutier sur la route qui mène de Lyon à Grenoble. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Émile vend des extincteurs à des particuliers. C'est un travail qui lui plaît car il aime être sur les routes, voyager et libre. Si les jours il ne veut rien faire, il ne fait rien. Il se contente de rouler. Personne ne lui dit rien. À 5 km du Meutier, une voiture qui file à vive allure dépasse Émile. Il accélère pour rejoindre la voiture, puis la dépasser. Autre voiture le dépasse. Émile, furieux, accélère et veut dépasser l'autre. Mais juste au moment où il allait le dépasser, l'autre braque. Émile a tout juste le temps de l'éviter. Attends, sale con, tu vas voir. Émile donne un coup brusque au volant. Malheureusement, sa voiture a touché l'autre et c'est l'accident. Notre voiture a buté un arbre. Émile a eu le temps de redresser sa voiture. Son aile droite est juste un peu cabossée. Il freine, arrête sa voiture. Il sort de voiture pour voir ce qu'a l'autre conducteur. La route était déserte durant l'accident. Il n'a été vu par personne. Émile s'approche de la voiture. Le devant enfoncé dans l'arbre. Vitre brisée, l'homme la tête à la renverse, le visage et les yeux fixes. Il est mort sur le coup. Merde! Quel con! Si je me fais prendre par la police, l'on risque de me retirer mon permis. Moi qui avais trouvé du travail, ce n'est pas ma chance. Ne restons pas ici. Avant de rentrer dans sa voiture, il regarde les dégâts qu'a eu sa voiture. Je n'ai pas grand-chose, un peu l'aile droite, pas de peinture de l'autre voiture, personne ne pourra savoir si c'est moi. Il remonte en voiture et part. Il arrive enfin au Meutier. C'est un petit village de 500 habitants. Le village est un peu en retrait de la Nationale 6. Il est au pied d'un coteau boisé. Il est tout en longueur. Les habitants sont de petits fermiers qui cultivent surtout le blé et la pomme de terre. Ils font aussi quelques vaches. La terre est caillouteuse. L'eau y est rare. Émile arrête sa voiture. Sa serviette et un petit extincteur pour commencer sa tournée. Il rentre dans une petite maison d'un étage qui a un jardin devant. C'est une femme qui lui ouvre la porte. Elle est grande, un peu forte, cheveux frisés bruns. Elle porte une blouse noire à pois blancs. Vous désirez, monsieur ? Bonjour, madame, je représente la maison SBI. Nous vendons en particulier des extincteurs. Si vous voulez, je peux vous montrer nos articles. La femme hausse les épaules et hésite. Si ce n'est pas trop long, parce que j'ai mon linge à faire. Elle le fait rentrer et le mène dans sa cuisine. Il lui montre des appareils qui sont photographiés dans un catalogue. Et, tout à coup, le téléphone sonne. Elle va dans le couloir répondre.
Allô ? Oui ?
Quoi ?
Tu es sûr ? Oh mon Dieu ! Comment ça s'est produit ?
Oh !
On sait qui ?
On recherche une voiture ?
Oh ! Ça me fait un drôle d'effet cette histoire.
Émile a tout entendu. Elle revient vers lui. Elle est pâle et songeuse.
Excusez-moi, mais j'aimerais être seule. J'ai appris une mauvaise nouvelle.
Oui, bien sûr, madame. Et il part. Elle se met à la fenêtre et le voit s'éloigner vers la place. Elle voit que sa voiture est cabossée. Sa tournée dans les fermes environnantes. Dans la soirée, il revient garer sa voiture devant l'église et va manger au café-restaurant.
Bonsoir, l'abbé.
Le café est plein d'hommes du village qui y sont réunis pour jouer aux cartes et au billard.
Le foie.
Un blanc sec.
Un Gabriel Mouchy, venant d'autres blancs secs.
Deux blancs secs.
Après le repas, Émile demande où il pourrait loger pour la nuit. Nous ne faisons pas hôtel. Mais il y a une femme au village qui loue de temps en temps une chambre. Elle est divorcée et la maison est trop grande pour elle. On lui indique la maison. Il y va. Malheureusement, c'est celle de la femme qu'il a vue à son arrivée. Émile hésite à y aller. Mais que faire ? Il se fait tard. Aller plus loin, à Bourgoin ou Grenoble, il arriverait trop tard. Tant pis, il essaie. Et puis, on lui a dit que ça ne la gênait pas d'aller chez elle si tard. La porte s'ouvre. Elle est surprise de le voir.
Excusez-moi, mais je ne sais où dormir, et l'on m'a dit que vous louiez des chambres.
Elle le fait rentrer. Elle a les cheveux défaits et une robe noire collante, ce qui la fait plus jeune. Émile est surpris par cette beauté majestueuse de femme en plein épanouissement. Elle le conduit dans une chambre au premier étage. La pièce est petite mais propre. Ce sera 100 francs pour la nuit. Émile sort de son portefeuille 100 francs et le lui donne.
Voilà, la salle d'eau est au fond du couloir. Vous partez à quelle heure demain ?
9 heures.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, madame, et merci.
Il ferme la porte et commence à se déshabiller.
La femme Hélène est retournée dans sa chambre. Elle a pris un paquet de cigarettes qui se trouvait sur la cheminée et un briquet. Elle fait le serpent en fumant. Sa chambre est grande. Un lit à deux places, une armoire table de nuit et une chaise devant une petite table. Ce sont de vieux meubles dépareillés. Tout en faisant les 100 pas, elle réfléchit. Ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui qui a créé l'accident qui a tué Patrick. Non, ce n'est pas possible. Il ne resterait pas au village. Au bout d'un moment, elle se couche. Mais elle n'arrive pas à dormir. La présence de cet homme chez elle, plus elle pense à lui, plus elle se sentait attirée par lui. La curiosité, l'excitation de l'autre sexe. N'arrive pas à dormir, cette femme encore désirable dans la plénitude de l'âge. À 8h30, Émile se réveille et va dans la salle d'eau se laver. Retourne à la chambre pour finir préparer pour partir. Il retrouve en bas à la cuisine Hélène. Je prends congé, je suis prêt. Elle s'avance vers lui. Au revoir, monsieur. Elle le raccompagne jusqu'à la porte. Elle ouvre la porte. Il voit que deux gendarmes regardent la voiture d'Émile. Émile ne sait que faire. Hélène regarde Émile. Les gendarmes vont au café, puis se dirigent vers eux. Elle est à vous cette voiture, monsieur ? Oui. Vous avez eu un accident ? Émile rougit. Hélène dit aux gendarmes. Oui. C'est avec moi que monsieur a eu son accident. Ah, c'est avec vous, quand? Hier, sur la Nationale 6. Et votre voiture, madame? Elle est au garage de mon frère à Bourgoin. Vous avez prévenu les assurances? Non, par la peine, pour si peu de choses. Et puis mon frère va arranger tout ça. Voulez-vous nous suivre? Hélène demande un petit instant. Elle a son lait sur le feu et n'est pas habillée. Je vous rejoindrai à la gendarmerie. Ils partent. Pendant ce temps, Hélène téléphone à son frère pour lui demander de cabosser l'aile gauche de sa voiture et de dire aux gendarmes, lorsqu'ils l'interrogeront, qu'elle a eu un accident hier. Le frère ne comprend rien à cette histoire, mais fait le nécessaire. Au retour de la gendarmerie, Émile et Hélène rentrent à la maison. enlève sa veste et le fait rentrer dans la cuisine. Il s'assoit à une table, elle reste debout. Il est midi passé. Avant de partir, vous prendrez votre repas chez moi. Pourquoi avez-vous fait cela ?
Je ne sais pas. Pourtant, je n'aurais pas dû vous aider. Je suis complètement folle.
C'est vous qui avez tué mon ex-mari.
Non, je ne l'ai pas tué. C'était un accident. Il m'avait fait plusieurs coups de poisson. Alors de rage, j'ai braqué et nos voitures se sont heurtées. La sienne qui roulait plus vite a percuté un arbre. C'est lui qui a commencé.
Si vous saviez que c'était moi, pourquoi m'aider ?
Je ne sais. Durant toute la nuit, je me suis mise à vous haïr. Et en même temps, j'étais attirée par vous.
Par quoi ?
Peut-être par votre mystère, qui vous donnait un certain charme.
Il se lève et s'approche d'elle.
Moi aussi, cette nuit, j'ai pensé à vous.
Elle ne bouge pas. Il la prend dans ses bras et l'embrasse.
Je suis folle de désirer un être comme vous.
Et il l'amène dans sa chambre. Elle ne résiste pas.
Il allonge sur le lit. Il se plaque contre elle.
Attendez, je suis plus vieille que vous. Je pourrais être votre mère.
Il sourit et l'embrasse.
Passe. Ils se voient toutes les fins de semaine. Ils s'aiment profondément. Elle a oublié qu'il a provoqué l'accident de son ex-mari. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment de sa faute. Soir, au coin du feu, dans la salle à manger, ils jouent tous deux aux dames. Elle lui demande quelles sont ses origines.
J'ai 26 ans. Je suis orphelin de père et de mère. J'ai été élevé chez des paysans.
Cela a dû être triste de ne pas avoir de parents.
Non. Je m'étais imaginé que j'étais fils d'un roi.
Je m'imaginais un vrai conte de fées.
Il s'est passé une chose étrange. Avant d'arriver au village, je m'étais arrêté dans un bar pour boire un café. Il y avait là un vieux qui m'a tiré les cartes. D'après les cartes, je ferais des choses contraires à la vie. Je renverserais l'ordre des choses. Mais ceci serait dû à mon aveuglement.
les mois passent ainsi, mais dans le village, les gens commencent à jaser de cette liaison. Ils décident de se marier, aussi parce qu'ils s'aiment et qu'Émile aimerait avoir une vie familiale. Il en a assez de laisser des placements. Le mariage a lieu dans la plus stricte intimité.
Mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu afin d'unir dans le Saint-Sacrement du mariage cet homme et cette femme.
Après leur mariage, Émile a arrêté la représentation. Il a repris avec sa femme la petite épicerie du village qui était à vendre. Ils l'ont nettoyée et modernisée. Après leur mariage, leur naît une petite fille, Athalie. Ils passent des jours tranquilles. Un jour, Émile était parti faire des courses à Bourgoin. Il entre dans un bar. Il trouve au bar le vieil homme qui lui a tiré les cartes. Il est accoudé au bar. Émile s'approche de lui. L'homme fait un geste de recul. « N'approchez pas !» « N'approchez pas, vous êtes maudit, vous avez péché !» Émile s'approche et lui tend la main. « Non, non, n'approchez pas, non, n'approchez pas !» Et le vieux court vers la sortie. Émile se retourne vers le barman. « Drôle de type ?»« Oui, c'est Grégoire, il a des yeux de sphinx. »« Qu'est-ce que c'est que des yeux de sphinx ?»« C'est des yeux qui savent voir. » Émile paye et sort. Sur la route, il se souvient de l'accident qu'il a eu. Personne n'a jamais su que c'était lui. Le hasard est vraiment bizarre. Je tue dans un accident de la route un homme et je me marie avec sa femme. Mais est-ce vraiment le hasard ou la destinée, comme le pense Grégoire avec ses cartes? Et un jour vient frapper à la porte. C'est une petite vieille habillée d'un manteau et chapeau noir. C'est Hélène qui l'ouvre.
Vous désirez, madame?
Je suis Félicie, la mère adoptive d'Émile.
Elle aime la faire entrer dans sa cuisine. Elle la fait asseoir sur une chaise devant la table. Hélène reste debout.
Je passais dans le pays. Alors j'ai voulu voir Émile. Pour son mariage, il m'avait envoyé un faire-part. Mais j'ignorais son adresse.
Je suis Hélène, la femme d'Émile. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Vous êtes très belle. Vous avez des enfants ?
Oui, une petite fille. En ce moment, elle est à la maternelle. Vous désirez boire quelque chose, madame ?
Oui, merci. Un verre de lait.
Hélène la serre.
Ah, sacré Émile, c'était un drôle de galopin, toujours à courir dans les bois avec les enfants du village.
Vous avez adopté Émile comment ?
Oh, c'est simple. J'étais marié, mais je ne pouvais pas avoir d'enfant. C'était à cause de la guerre. Les privations m'avaient rendu la santé fragile. Le médecin ne voulait pas. Alors j'ai fait une demande pour adopter un enfant. J'ai attendu longtemps, très longtemps, mais j'ai eu Émile.
Quand on vous a parlé des origines d'Émile.
Normalement, il est interdit de parler des origines des enfants aux parents, adopteurs. Mais je connais une amie qui travaille au centre. Elle m'a dit certaines choses.
Vous pouvez me les dire ?
Je n'en ai jamais parlé à Émile. Il faut me promettre de ne rien lui dire.
Je vous le promets.
Eh bien voilà, l'enfant a été trouvé nouveau-né sur le pavis de l'église de Bourgoin.
Sur le pavis de l'église de Bourgoin ?
En quelle année ? En janvier 1962.
Hélène devient livide. Elle tremble, est obligée de s'asseoir.
Vous n'allez pas, madame ?
Vous êtes sûre de ce que vous dites ?
Oui, j'en suis sûre.
Mon amie, c'est elle qui me l'a dit.
Elle se remet un peu. Ce doit être sûrement une erreur. Il faut que je revoie les dates. Je me fais sûrement des idées. Elle regarde Félicie.
Vous savez rien d'autre sur les origines ?
Non.
Merci. Vous restez dîner avec nous ?
Non, malheureusement, je ne peux pas. Mon cœur ne va pas tarder.
Vous n'avez pas vu ni Émile, ni la petite.
Je vais vous donner mon adresse et vous viendrez me voir à Bourgoin, car je habite désormais là-bas.
Une fois qu'elle est partie, Hélène court à sa chambre. Elle ouvre un tiroir de sa commode. Prend un petit carnet, l'ouvre et tourne les pages.
Ah, voilà, c'est ici. Mon Dieu, la date coïncide. Qu'ai-je fait ? Je suis damné.
Lorsqu'Émile rentre chez lui le soir, la maison est dans le noir, pas le moindre bruit. Il monte les escaliers. Il retrouve dans la chambre qui est dans l'obscurité, sa femme assise à terre sans bouger. Il est clair, elle sursaute. Pourquoi restes-tu comme ça dans le noir ?
Parce que nous sommes damnés.
Il s'approche et se penche vers elle.
Que dis-tu là ?
Rien, la vérité, nous sommes damnés.
Et qu'avons-nous fait pour l'être ?
Tu es mon fils, je suis ta mère.
Qu'est-ce que tu dis là ? Je n'y comprends rien.
C'est moi qui t'ai mis au monde. Il s'assoit à terre auprès d'elle, il la croit folle.
Que dis-tu là ? D'où viennent ces idées-là ?
Ta mère nourricière est venue ce matin. Elle m'a raconté. Qu'on l'a trouvé nouveau-né en 1962 sur le pavis de l'église du Bourgoin. C'est moi qui t'y avais déposé. Il le regarde, ahuri.
Mais c'est impossible. Pourquoi m'aurais-tu déposé ?
Avant notre mariage, j'ai connu Patrick. Nous nous aimions. Mais nous ne pouvions pas nous marier. Il avait ses études à finir,
et son armée à faire. Malheureusement, je suis tombée enceinte. Je ne voulais pas de cet enfant. J'étais jeune et folle. Ma grossesse ne se voyait presque pas. Je l'ai cachée à tous. J'ai accouché chez une sage-femme qui, après ma naissance, a déposé l'enfant sur le pavé de l'église. Quelques années après, nous nous sommes mariés, Patrick et moi. Mais Dieu nous a punis, car il n'a pas voulu que j'aie eu d'autres enfants. Et qui te dit que je suis ton fils? Les dates qui coïncident, c'est peut-être un hasard. Est-ce que tu crois qu'en 1962, on avait coutume de mettre les enfants sur le pavé des églises? Alors qu'allons-nous faire? Ils restent tous deux silencieux. Il faut que tu me quittes. Je t'aime, moi. Non, il faut nous quitter. Nous n'avons pas le droit. Mais personne ne le sait. Il n'y a que nous. Qu'est-ce que ça peut faire? Elle se lève. Non, tu dois partir. Ce que nous avons fait est tabou. Et notre enfant? Cet enfant n'a pas le droit de vivre. Elle n'est rien. Pour que tout rentre dans l'ordre, elle doit mourir. Chaque minute qu'elle passe sur cette terre est un crime. Je vais la détruire. Mais elle n'est pas coupable. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'est pas coupable parce que c'est le crime lui-même. Il faut supprimer le crime. Chaque minute compte. Elle sort de la pièce en courant comme une folle. Il la suit. Elle descend les escaliers. Non, ne fais pas ça. Elle se retourne. Lorsque je l'aurai fait, tu partiras pour toujours. Elle continue à descendre les marches. Il la suit. Prends dans l'entrée une carabine et ouvre la porte de la cuisine. Non, ne fais pas cela. Il est derrière elle et essaie de l'arracher l'arme. De 3 ans ne comprend rien et reste sagement assise. Dans la bagarre, il lui a pris l'arme. Elle, furieux, prend sur le buffet de la cuisine la première chose qu'elle trouve pour lui jeter au visage. C'est du fumant. Il en reçoit plein les yeux. Il lâche l'arme pour mettre les mains à ses yeux. Il pousse un grand cri de douleur. Ah! Ah! Elle prend l'arme et tire sur la fille. Les mains sur son visage. Il sort de la maison, les mains sur son visage en courant et criant « J'y vois enfin !» Il est devenu aveugle. Thank you.
Radio Canut vous a présenté dans sa série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Inflexible Destin. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Oh.